Estelle Motion, bonjour.
Bonjour.
José Eduardo, Isabelle, Filomeno, ce qui frappe dans votre livre, la Dos Santos Company, c'est la boulimie du clan Dos Santos. Ils ont déjà le pétrole, les télécoms et ils veulent toujours plus. Pourquoi ?
Je ne sais pas si on peut parler de boulimie, mais en tout cas, il y a eu un sentiment assez fort en Angola, en fin de règne, d'une sorte de perte de contrôle un peu. C'est comme si on voulait toujours plus. Et ça, c'était assez frappant dans les deux dernières années du temps de José Eduardo dos Santos comme président. Il y a eu des anecdotes qui ont un peu frappé en Angola. On a vu un des jeunes fils d'Anilo, acheter en fait dans une vente aux enchères caritative à Cannes une montre à 500 000 euros. Ça a beaucoup frappé en Angola, on en a beaucoup parlé dans les médias. Ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est ce système de pouvoir économique, social, politique assez incroyable qui a été mis en place pendant tout le temps où José Eduardo dos Santos a été au pouvoir en Angola, donc 38 ans, de 1979 à 2017. Ce système, il s'est mis en place dans un contexte particulier de guerre civile, puis ensuite il s'est développé et il s'est amplifié à partir du retour de la paix dans le pays en 2002. Et cette amplification, elle est allée jusqu'à un certain point assez important en fin de règne qui ressort très fort dans ce livre.
José Eduardo dos Santos, quand il est au pouvoir, est un homme discret, jamais d'interview, il est presque introverti. En revanche, ses enfants, ils s'affichent. Isabelle, c'est la jet-setteuse, elle s'affiche notamment avec Mariah Carey, avec Kim Kardashian. Pourquoi cette contradiction entre le père et les enfants ?
Ce qui est frappant dans cette famille, c'est qu'il y a des personnages hauts en couleur. Le père, c'est le patriarche. C'est vrai qu'il est assez discret, d'un caractère introverti. Les enfants et les autres membres du clan, c'est un peu différent. Ils ont chacun leur personnalité. Isabelle, moi, je la qualifie d'étoile de la famille, notamment pour sa projection internationale. On peut avoir l'apparence d'une contradiction entre tous ces personnages, mais ce que je montre, c'est comment ils font tous partie de ce même système et comment chacun, ils ont pris leur place dans ce système. Et pour revenir sur Isabelle dos Santos, c'est vrai qu'elle a donné sa plus grande projection internationale à ce système et à cette époque dos Santos.
Quand on lit votre livre, celui qui est peut-être le plus modéré dans le clan, c'est le mari d'Isabelle dos Santos, le Congolais Sindika Dokolo, grand collectionneur d'art. Il n'en fait pas trop, lui.
Moi, ce qui me frappe, c'est le couple qu'il forme avec Isabelle dos Santos. Elle, comme lui, incarne la réussite. Il est plutôt à ses côtés. Je raconte un épisode dans le livre, quand Isabelle participe à une conférence, lui, il est devant, au premier rang, et il écoute.
Il n'est pas sur le podium.
Il n'est pas sur le podium, voilà.
Alors, face à ce clan dos Santos, il y a quand même des jeunes gens courageux qui résistent. Et le premier d'entre eux, bien sûr, c'est le rappeur Luati Berao. Et vous racontez ce coup d'éclat, c'est un concert en 2011 à Luanda.
Oui, en mars. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, monter sur scène lors d'un concert à Luanda et dire « il y en a marre, il faut que le président parte », c'est subversif. Enfin, les gens ont pu avoir peur pour Luati Berao. Et d'ailleurs, avant de quitter la scène, il donne rendez-vous à une manifestation quelques jours après. Il dit « si, je suis encore là ». Donc, il faut comprendre à quel point ce concert, c'est le début, en fait, de la mobilisation de jeunes à Luanda, dans un contexte après de printemps arabe ailleurs sur le continent.
Et 5 ans plus tard, en 2016, José Eduardo dos Santos décide d'abdiquer l'année suivante. C'est un acte rare en Afrique. Pourquoi cette décision ?
Il y a plusieurs raisons pour expliquer cette décision, que moi j'interprète comme un choix stratégique. D'abord, la situation économique du pays est très difficile. Depuis 2014, les cours du pétrole ont chuté. Ensuite, il y a une contestation sociale croissante chez les jeunes, mais plus large, il y a une grogne sociale. Et même au sein du MPLA à l'époque, dans ces dernières années, 2016-2017, ça commence à grogner contre la gouvernance qui n'est pas à la hauteur, même contre l'omniprésence du clan. Et puis, il y a un facteur qu'il faut pas oublier, même si ça reste un sujet tabou par excellence, c'est l'état de santé de José Eduardo. Je pense qu'il était assez affaibli à cette époque-là et je pense qu'il a calculé, il s'est dit il vaut mieux passer la main et essayer de contrôler la suite plutôt que de pousser plus loin.
Vous racontez la chute. Elle est brutale puisque João Lourenço, le successeur, fait arrêter le fils dos Santos, Filomeno, qui dirigeait le fonds souverain. Et aujourd'hui, on peut dire qu'Isabelle, la sœur aînée, ne met plus les pieds en Angola, non ? De peur d'être arrêtée, j'imagine.
Difficile de répondre à cette question. Ce qu'on constate, c'est que depuis avril, José Eduardo dos Santos a quitté le pays. Il est apparemment en Espagne. Et puis, plusieurs de ses filles, dont Isabelle, sont plutôt en Europe. Sur le cas de José Filomeno, donc l'ancien patron du fonds souverain, c'était impossible, il y a 2-3 ans, de penser qu'un dos Santos serait traduit devant la justice. C'était impensable. Quand il a été inculpé pour fraude, ça a été un choc hein, en Angola. Et ensuite, il a passé presque 6 mois en détention provisoire. C'était ça aussi impensable. Donc là, maintenant, la justice doit faire son travail. On n'a pas encore le fin mot de l'histoire. Mais ça aussi, ça incarne cette rupture qui s'est passée dans ce pays, qui se passe encore aujourd'hui en Angola.
La chute est d'autant plus brutale que Madame Dos Santos, Ana Paola, est partie. Elle a quitté son mari. Est-ce qu'aujourd'hui, le nouveau patron de l'Angola, João Lourenço, a redonné une certaine popularité au parti au pouvoir MPLA sur le dos du clan Dos Santos?
Ce qui est sûr, c'est que João Lourenço, dès sa campagne en fait, pour les élections générales et après à son arrivée au pouvoir, il a vraiment voulu incarner une rupture. Il a limogé énormément de gens. Dans son premier discours devant le MPLA comme président du MPLA, il a dit « Les ennemis numéro un qu'il faut combattre, c'est notamment la corruption et le népotisme. » Il y a eu un certain espoir dans sa première année de présidence. Là, maintenant, ça fait 2 ans.
Il y a une certaine habileté. Hein. Il reçoit le rappeur Luati Berao au palais présidentiel il y a quelques mois.
Il reçoit aussi un journaliste et activiste Rafael Marquez. Il a voulu et il veut incarner cette rupture. Maintenant, tout l'enjeu pour lui, c'est de réussir à changer un système dont il fait partie, dont il est l'héritier, qui dure depuis presque 40 ans et qui a constitué le pays ces 40 dernières années. Donc en gros, comment faire table rase de quelque chose qui dure depuis 40 ans? Il va falloir faire des réformes, il faut avancer, mais il faut aussi, il y a quelque part des mentalités qui doivent changer du haut en bas de la société, et c'est ça qui risque de prendre du temps et qui peut provoquer des résistances.
Estelle Motion, merci.